VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue dans notre journal. Dans l'est de la RDC, 6 civils ont été abattus hier dans 3 attaques distinctes attribuées à des rebelles ougandais près de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a appris l'AFP aujourd'hui auprès des autorités locales. Les 3 attaques se sont succédées dans l'après-midi. Les ADF sont présents depuis 20 ans dans l'est de la RDC où ils sont accusés d'avoir tué plus de 400 civils, essentiellement à l'arme blanche dans une série de massacres ou d'attaques perpétrées depuis octobre 2014 dans le territoire de Beni et aux confins de la province orientale voisine. En Guinée, la mission d'observation de l'Union européenne a exhorté aujourd'hui les candidats à recourir à la justice plutôt qu'à la rue en cas de contestation des résultats du premier tour, non encore publié jusqu'à présent. Lors de sa conférence de presse à Conakry, le chef de la mission, Frank Engel, a également critiqué vivement le manque de préparation de la CINI, la Commission électorale nationale indépendante guinéenne. Nous l'écoutons.
Le scrutin, ça a été une mascarade, une fraude massive qui a organisé toute la journée et qui continue aujourd'hui au niveau des commissions administratives de centralisation de vote. Nous ne pouvons pas vraiment accepter ce scrutin-là. Nous demandons son annulation et nous ne reconnaîtrons pas les résultats.
Voilà la réaction de Sélou Dalan Diallo de l'UFDG qui n'a pas mâché ses mots à Conakry. Hier, la CENI qui est au centre d'une controverse sur le transfert des fichiers électoraux de 2015 de l'importante diaspora guinéenne aux États-Unis. Mamadi Kondé, ambassadeur de Guinée à Washington, demande des comptes à l'institution de supervision des élections qui aurait, selon lui, égaré les données de base des ressortissants guinéens vivant en territoire américain. On écoute l'ambassadeur Kondé au micro de Georges Léonard Sagnot.
Certainement, la CENI va voir l'impact que cette décision a sur le vote et évaluer conséquemment. C'est un devoir sacré, c'est vrai, de s'acquitter de son vote. Dans notre cas particulier, les États-Unis, parce que nos données ont été égarées entre New York et la CENI. Ça, c'est pas nous, c'est des faits anodins. Et aujourd'hui, nous en sommes victimes.
Et jusqu'à aujourd'hui, aucune nouvelle de ces données égarées. Est-ce que des responsabilités ont été situées? Qui est responsable?
Il appartient à la CENI de procéder à une enquête sérieuse pour situer les responsabilités. Ils ont délégué leurs représentants de New York pour venir prendre les ordinateurs et les clés contenant les données de Washington. Ces clés ont été regroupées à New York, plus les 3 ordinateurs. New York avait 2 ordinateurs plus 4 clés. Nous, on avait 3 ordinateurs plus 6 clés, ce qui fait 10 clés. Mais il n'y a que 5 clés, semble-t-il, qui sont arrivées à la CENI. Où sont passées les autres 5 clés? Donc, cette enquête, c'est à la CENI de déclencher et situer les responsabilités. Ils ont délégué quelqu'un avec ordre de mission pour venir prendre les données ici. D'ailleurs, j'avais même fait opposition en disant que pourquoi Washington doit transmettre ces données à New York. New York dépend de Washington. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une ambassade là-bas, ça c'est une dérogation. Mais la dérogation consulaire ne doit pas amener la CENI à considérer New York comme le point de départ. Non, c'est une erreur. C'est Washington qui est le point de départ. Or, c'est l'inverse qui se produit. J'ai dit jamais, je ne suis pas prêt à transmettre mes données à travers New York. Ils ont dit non, il y a quelqu'un qui vient avec ordre de mission. Veuillez lui remettre les données. Et c'est ce qu'on a fait. On a exécuté. Depuis lors, on a perdu les traces de nos clés. Parce qu'ils se sont égarés entre New York et la CENI. Il y a une main invisible certainement qui a manipulé. Et comment et pourquoi? C'est pourquoi j'ai exigé que la CENI fasse une enquête là-dessus. Parce que c'est nous qui en sommes victimes, ce sont mes citoyens qui sont victimes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu voter.
Et au jour d'aujourd'hui, aucune information, une personne n'a pas été interpellée?
Non, à ma connaissance, non.
Identifiée?
Non, à ma connaissance, non. Nous attendons de savoir plus après les élections. Certainement, ils vont repasser en revue l'ensemble des questions. Parce que, honnêtement parlant, c'est inadmissible. Tout le club n'a pas travaillé sur ce recensement. Les gens s'étaient dûment recensés. Et ce sont eux qui ont décidé de transmettre les données à New York, pas l'ambassade. Ce sont eux, c'est la CENI qui a envoyé quelqu'un avec ordre de mission. Et dès l'instant où nos données ont été transmises à New York, nous avons perdu les traces. Voilà le problème.
C'était Mamadi Kondé, l'ambassadeur de Guinée aux États-Unis. Au Burkina Faso, la justice militaire à Ouagadougou remet aujourd'hui aux avocats le rapport préliminaire sur l'examen des restes du président Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés en octobre 1987. Notre envoyé spécial à Ouagadougou, Bagassi Koura, suit ce dossier. Écoutons son compte-rendu.
Depuis 9h, temps universel ici, les avocats de la famille Sankara et aussi des 12 autres victimes du coup d'État de 87 sont arrivés ici au tribunal militaire. Ils sont à l'intérieur avec probablement les juges militaires pour recevoir donc ce dossier qui concerne l'expertise donc des restes supposés de Thomas Sankara et de ses 12 autres compagnons. C'est un moment très attendu parce que ça va donner une nouvelle allure à ce dossier qui a longtemps stagné pendant des années jusqu'à la chute en octobre dernier du président Blaise Compaoré et aussi le démantèlement il y a quelques jours du RSP, le régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré qui a été pendant longtemps cité dans ce dossier, que ce soit le dossier Thomas Sankara ou encore d'autres dossiers comme Norbert Zongo, le journaliste qui a été assassiné en décembre 1998. Et donc, avec la remise de ce rapport, on s'attend à ce que les avocats prennent connaissance et probablement, dans le courant de la journée, on aura leur réaction, leurs premières impressions sur ce dossier-là.
Merci Bagassi, il est notre envoyé spécial à Ouagadougou. Il va suivre donc le dossier des restes de Thomas Sankara.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et la suite de l'actualité, crise au Burundi, manifestation des Burundais des États-Unis devant la Maison-Blanche hier à Washington pour demander à la communauté internationale d'agir vite pour mettre fin aux tueries et violations des droits de l'homme dans leur pays d'origine. Au micro d'Eric Manirakiza, les déclarations de Karine Kaneza, leader de la manifestation.
On a décidé de nous joindre à la souffrance de nos frères et sœurs au Burundi. Nous demandons que la communauté internationale, que les Nations Unies, que les gouvernements aillent au-delà d'une simple condamnation de ce qui se passe. Nos frères et sœurs sont torturés, sont tués silencieusement. Au moment où je vous parle, quelqu'un est en train de porter un deuil. Quelqu'un vient de perdre un père, une mère, une sœur, un frère. Nous demandons que la responsabilité de protection soit mise en application sur le Burundi. Nous voulons une force d'intervention pour protéger les citoyens burundais. Nous demandons qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait plus de pression pour qu'il y ait des pourparlers de paix entre le gouvernement du Burundi et l'opposition, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit. Qu'il y ait des pourparlers sans précondition. Et puis finalement, nous demandons qu'il y ait une commission d'investigation internationale sur les crimes qui sont en train d'être commis contre le peuple burundais.
Karine Kaneza, membre du Mouvement international des femmes pour la paix et la sécurité. Direction le Soudan, pour la première fois, le régime cite des chiffres. 70 jeunes Soudanais se sont rendus en Syrie et en Libye pour rejoindre les rangs du groupe État islamique. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre soudanais de l'Intérieur, Ismat Abdelrahman. Et c'est une première. Les précisions de Michel Joseph.
C'est la première fois que les autorités soudanaises avancent un chiffre précis concernant ces jeunes attirés par le groupe djihadiste. Plusieurs étudiants du Soudan, certains détenteurs de passeports occidentaux, se sont rendus en Syrie via la Turquie pour combattre avec l'EI, selon des médias. Le ministre soudanais de l'Intérieur, Ismat Abdelrahman, que cite l'AFP, a fait savoir que son pays, en coordination avec le gouvernement turc, avait réussi à empêcher plusieurs personnes de rejoindre l'organisation djihadiste opérant en Irak, en Syrie et en Libye. Selon lui, les services de sécurité et de l'éducation ont lancé une campagne de sensibilisation pour empêcher les jeunes Soudanais d'aller combattre avec le groupe djihadiste. En juin, 12 étudiants, dont des Britanniques et des Canadiens, auraient quitté l'Université de sciences médicales et de technologie à Khartoum pour la Turquie afin de rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Un autre groupe de 9 étudiants britanniques d'origine soudanaise inscrits à la même université aurait fait de même.
Enfin, selon l'Agence européenne de surveillance des frontières, plus de 710 000 migrants sont entrés dans l'Union européenne entre le 1er janvier et le 30 septembre. VOA Afrique suit ce dossier de très près. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com pour suivre notamment le reportage photo de Nicolas Pinault consacré aux tortures faites sur les migrants. très bonne journée à l'écoute de nos programmes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.